un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Il s'appelle Yanis, il a 13 ans et il est en 4e au collège Jean-Jacques Rousseau d'Argenteuil. Passionné d'histoire de France, par Napoléon notamment, il a commencé par délégué de classe et espère finir président de la République. C'est le 3e épisode d'une mini-série que nous consacrons à ce jeune homme et qui nous conduit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, où Yanis a la chance de rencontrer son député et de visiter le bâtiment. Et comme nous sommes un jour de manif contre la réforme des retraites, le député et le collégien vont ensuite frayer avec le peuple. Une longue journée pour Yanis qui m'a fait penser, à la fin, à la géniale série de Rebecca Zlotowski, Les Sauvages. Et si un jour, oui, si un jour, Hider Chaouch devenait vraiment président de la République? Un président d'origine algérienne, un bourgeois, mais quand même racisé. Qu'en diriez-vous? Et si c'était Yanis, ou un autre enfant de l'immigration qui réussissait? Qu'on avait enfin notre Obama, et même en mieux. Bon, il est vrai que ce n'est pas exactement la perspective qui se dessine en ce moment, mais on écoute quand même Yanis et on imagine que si ce n'est pas lui, ce sera donc son frère. Un reportage de Brice Gravel.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec ma chère mère, en tête à tête, parce que mon frère est au lycée, on va à l'Arc de Triomphe, sauf qu'on va monter sur l'Arc de Triomphe, je ne l'ai jamais fait, donc c'est parti.
Salut, donc là on est devant la tombe du soldat inconnu, donc la tombe d'un soldat pendant la Première Guerre mondiale. On ne connaît pas son prénom ni son nom, voilà.
Salut, je suis en train de monter, je suis... Je suis même pas encore à la moitié. Je suis épuisée. Je savais pas qu'il y avait autant d'escaliers. Et ma mère, elle est partie prendre l'ascenseur. Je voulais faire le malin en prenant les escaliers, ça a raté. Avec-moi là.
Moi et ma mère, on n'est jamais monté sur l'Arc de Triomphe. Enfin, on est déjà allé sur les Champs-Élysées, mais on n'est jamais monté sur l'Arc de Triomphe. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On doit traverser le rond-point. Il était à peu près 13h. Traverser le rond-point à 13h, c'est pas... Je vais peut-être passer pour un guignol, mais qui savait vraiment que pour aller sur l'Arc de Triomphe, fallait passer sous un tunnel en dessous du grand rond-point. Du coup, on s'est épargné de se faire klaxonner 50 fois, et du coup, on est passé par en dessous. Et vraiment, c'était magnifique.
Je m'appelle Yanis, j'ai bientôt 13 ans et je suis au collège Jean-Jacques Rousseau à Argenteuil. Je suis en 4e une.
Et en fait, j'aime bien les débats. Donc ça serait vraiment bien pour moi si je fais de la politique, parce que ça me plaît. Et moi, je serais un parti. Parce que les partis, là, ils sont tous en train de se faire la guéguerre pour eux, alors que tous, leur truc, il est nul. En fait, mon parti, ça serait de l'écologie. Et en même temps, de tout ce qui est le chômage et trucs comme ça, il faut régler rapidement. Il n'y a pas de lycée vraiment qui forme à la politique. Et j'ai entendu parler de l'IENA, c'est une université à Paris. Il y a une option où ils forment les politiciens et tout ça, à leur programme et tout ça. Et pourquoi pas devenir président, j'aimerais bien. Ouais, j'avoue que j'aimerais bien être président, ouais. Parce que encore à l'Assemblée nationale, tu fais une voix, mais ça se trouve, il y a 477 autres, ils votent autre chose.
Je veux juste être quelqu'un qui... Juste quelqu'un dans la politique qui fasse bouger les choses, quoi. Encore président, c'est compliqué, mais si je peux être député et des choses comme ça, moi, je fonce, hein, je vais pas chercher à comprendre.
Et voilà, bienvenue à l'Assemblée nationale. Paul Magnier, enchanté. Il y a 577 députés. Mais chaque député, enfin quasiment tous, sont membres de groupes politiques. Moi, je suis membre du groupe politique La France Insoumise NUPES. Et ici, c'est les bureaux du groupe qui sont là, tu vois. Cette série là de.
Ah ouais, donc tu veux venir à 8h ici, sortir à 20h.
Bah, tu sais, des fois, on vient à 8h, on sort à 5h ou 6h du matin.
Et est-ce que ça arrive, par exemple, qu'il y a des trucs que vous votez ou qu'il faut impérativement que vous veniez en urgence ici
Avant certains votes, il y a une sonnerie qui retentit et qui alerte les députés qu'un vote important va avoir lieu dans les minutes qui suivent. On se met à courir en espérant être les plus nombreux. On arrive, salle des quatre colonnes.
C'est ici qu'il y a les interviews des députés.
Exactement. C'est ici que les députés, généralement, répondent aux interviews.
Il y a une salle de sport, ouais, donc je t'ai dit, il y a un coiffeur, mais je vais pouvoir te le montrer, peut-être. Et là, donc, on revient sur le jardin, c'est pas très grand. Bon, on a fait à peu près le tour des espaces que je peux vous montrer là. Est-ce qu'on se rentre, on peut se réchauffer, un petit café, un truc comme ça, un chocolat si tu veux, ou... Très bien.
Je voulais être bien habillé. Et mon père a insisté pour m'acheter un costume. On a fouillé toute la défense jusqu'à ce qu'on la trouve. Sauf qu'il manque un truc, c'est que j'ai que des ASICS et des Stan Smith. Et mes Stan Smith, ils sont vraiment trop petits. Je fais pas trois pas avec. Donc on est reparti acheter des chaussures. Et la cravate, je l'avais déjà parce que je la mets pour travailler avec ma mère. Et même la chemise, je l'avais déjà. Sûrement plutôt pas mal. C'est pas le vêtement, je suis plus à l'aise. Mais bon. Comment ça se fait que c'est aussi petit? Enfin, je veux dire, un député, quand même, ça a des lourdes responsabilités. Je crois vraiment que le bureau de mon principal, il est un peu plus grand que le vôtre.
Bon, d'abord, j'ai pas le meilleur des bureaux de l'Assemblée, je dois le dire. Après, ici, c'est un endroit important, mais en fait, j'y passe peu de temps. Parce que quand je suis à l'Assemblée, je suis plutôt en séance, en commission, en réunion, donc toujours un peu à droite, à gauche.
Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres politiciens qui mentent pour être élus et après ne font pas leurs engagements?
Je crois que malheureusement, il y en a beaucoup.
Et le cliché de « il faut savoir mentir en politique », c'est vrai ou...
Je crois que c'est... ça dépend de comment on veut en faire, en fait. Moi, je pense que c'est très très important de dire la vérité. Le député, il a un grand pouvoir, qui est le pouvoir de faire la loi. C'est un grand pouvoir. C'est un pouvoir qu'il partage avec ses collègues, mais reste que c'est pas rien, ça change la vie des gens. Mais en même temps, il n'a aucun pouvoir, par exemple, localement. Le député, c'est pas la même chose que le maire, par exemple. Moi, j'ai aucun pouvoir sur des sujets pour lesquels parfois je suis interpellé par les habitants d'Argenteuil ou de Beson. Ils viennent, ils me disent, ils ont un problème de logement, un problème de circulation, un problème de sécurité parfois. Alors, comme député, je peux intervenir, je peux interpeller les autorités qui sont responsables, mais je n'ai pas directement le pouvoir de transformer la situation. Moi, ça, je le dis aux gens. Je leur raconte pas des histoires, je leur dis pas. Vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, je vais pouvoir tout régler. Je vais vous aider, je vais faire le maximum. Mais le maximum pour moi, c'est d'interpeller ceux qui sont en situation de régler telle ou telle situation. Je préfère dire la vérité plutôt que de faire celui qui pourrait tout régler. Voilà, que de mentir, parce qu'au fond, ce serait mentir. Et je pense pas qu'il... Voilà, je pense que c'est... Il faut pas mentir en politique. Il faut avoir un rapport franc, direct avec les électeurs. Mais moi, avec mes collègues, j'ai écrit deux propositions de loi. La première, elle vise à garantir la gratuité de l'éducation. Donc gratuité des fournitures scolaires, des cantines scolaires, des transports scolaires. Et la deuxième, elle vise notamment à répondre aux graves problèmes de recrutement dans l'éducation nationale. Peut-être que toi, tu le vis d'ailleurs dans ton collège.
Pas de prof de musique. Ouais. Maintenant, on a eu une remplaçante, mais l'année dernière, on n'avait pas de prof d'art plastique.
Ouais.
On n'avait pas de prof d'SVT. Anglais, on a eu une remplaçante. C'est vraiment au collège,
Je crois que toutes les 2 semaines, on voit l'inspecteur qui arrive. Et à chaque fois, il dit, bah, je suis désolé, on n'a pas de prof. Donc, pour l'instant, il manque des matières. Après, on peut peut-être mieux payer les profs aussi, je pense.
Ouais, je pense aussi.
Du coup, aussi, je pense qu'il y a certains professeurs qui ne veulent pas aller dans des collèges de province, préfèrent aller dans les collèges privés où, soi-disant, il y a des élèves plus disciplinés et tout ça. Donc, je pense que ça freine aussi le fait qu'on n'ait pas beaucoup de profs au collège cette année. Et donc, je pense que même ça démoralise des élèves qui sont dans des collèges. Il y en a qui ont complètement décroché parce qu'ils disent, bon, de toute façon...
Bien sûr.
Je pense que s'il y avait des bons élèves dans toutes les classes, dans les collèges publics, au contraire, je pense que ça pousserait les autres à justement à être un peu plus attentifs et tout ça. Après le collège, il y a aussi les lycées privés qui sont encore plus sélectifs encore. Ouais. Après, au-dessus, il y a les écoles de commerce, alors qu'il y en a certains qui décrochent au collège parce qu'ils pensent qu'après, de toute façon, ils ne pourront pas intégrer un bon lycée ou une bonne école supérieure. Ils ont un métier en tête, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les résultats pour. Et on voit, cette année, au collège, il y a un nombre record de 3e. L'année dernière, ils n'ont pas trouvé de lycée. Ils n'ont pas trouvé de lycée parce que soit ils n'avaient pas d'idée, soit ils se sont pris du coup à la dernière minute parce qu'ils se sont dit « Ah tiens, j'ai trouvé un truc qui me plaît ». Le problème, c'est que c'était en juin, donc il n'y avait plus de lycée. Et du coup, aujourd'hui, on a des 3e de l'année dernière qui sont vraiment 3e. Et un an, malgré tout, c'est beaucoup de temps et ils recommencent leur 3e et tout ça. Et on voit très bien, par exemple, le gouvernement avec Parcoursup, que vraiment ils veulent mener les c'est pour ça que la retraite est aussi injuste aussi, c'est parce que pour les jeunes, ils font exprès avec Parcoursup de mettre directement les jeunes dans le monde du travail pour pouvoir les garder le plus longtemps dans le monde du travail et pour pouvoir directement recevoir de l'argent avec leur travail jusqu'à 64 ans. Alors je pense qu'il y a quelques années, on prenait le temps vraiment d'avoir des études longues, d'avoir une retraite un peu plus courte pour pouvoir profiter de sa retraite au final. Parce qu'il y a des Français qui ne verront malheureusement jamais leur retraite et tout va dans les caisses de l'État. Enfin, c'est de l'argent économisé à l'État.
Donc, bah ouais, alors que les jeunes, ils doivent... Toi, t'as 13 ans, tu sais déjà que tu veux devenir président de la République. Mais qui sait, peut-être que dans un an ou deux, t'auras un autre projet.
Ouais, un projet,
En tout cas, c'est bien de se laisser le temps d'y réfléchir. Ah, là, on te force à prendre une décision regarde, t'as 13 ans et t'es déjà en train de remplir des questions.
Au début, il y a le principal adjoint qui venait. C'est pas forcément de leur faute, hein, ils suivent ce qu'il faut. Ouais, voilà. Ils vont dans les classes, ils disent il faut se préoccuper un petit peu de votre avenir pour que vous puissiez choisir votre avenir. À chaque fois, ils disent alors, qu'est-ce que tu veux faire ? On donne un métier, ils disent « Ah, mais je pense que ça serait mieux que tu fasses ça, comme ça il y a un lycée. Enfin, » c'est vraiment un entonnoir qui mène à un métier rapidement. C'est ça le... Et vraiment, à 17 ans, on ne pourra pas changer de projet. Ou alors, il faut devenir entrepreneur. Et pareil, ça met de l'argent à l'État. Donc dans tous les cas, malheureusement, ça finit en gros, gros bénéfice pour l'État. Et comme disait Victor Hugo dans son célèbre discours à l'Assemblée nationale, tant qu'un Français a faim, vous n'avez rien fait. Tant qu'un Français doit se battre pour survivre et survivre, vous n'avez rien fait. Un grand discours de Victor Hugo que j'ai écouté il n'y a pas longtemps. Alors.
Messieurs, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, je ne dis pas amoindrir, je dis détruire.
Et franchement, c'était vraiment intéressant de juste comprendre. Déjà, à l'époque, il était Victor Hugo. Il est surtout connu pour ses nombreux livres et tout ça. Mais en réalité, il a beaucoup fait évoluer la France.
Détruire la misère est possible.
Pendant le règne de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, il a vraiment fait évoluer la France à cette époque-là, et la France, elle serait pas la même s'il n'y avait pas eu Victor Hugo. Il fait réfléchir un petit peu sur la France d'aujourd'hui,
qu'on est arrivé malheureusement dans le même état qu'à cette époque-là, où les Français vraiment n'en pouvaient plus et il y avait Victor Hugo pour plaider leur cause.
Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait. Rien fait, messieurs.
France Culture. Sur terre.
Moi, j'essaye de siéger. On essaye tous de siéger le plus possible, le plus de temps qu'on peut. Mais ce que tu dois savoir, c'est que l'activité du député se résume pas à être uniquement dans l'hémicycle. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en dehors, qui se voit pas forcément autant, mais qui est incontournable, indispensable. Donc la présence dans l'hémicycle, c'est essentiel, mais ça, notre activité ne se limite pas à ça.
Pour moi, une assemblée constituante, c'est la meilleure solution pour faire une 6e République. C'est une assemblée qui va se regrouper et qui va mettre les points sur la table et dire « Attends, on va faire une 6e République, voilà comment elle sera organisée, les droits, les machins, enfin... » Comme ils avaient fait en 1789, on fait la monarchie parlementaire, le roi il a ça, il a ça... Même pour garder une 6e République avec le même gouvernement, c'est pas grave, mais avec des autres droits, des plus écouter les hommes qui sont pas des députés, qui sont pas du gouvernement. Pareil, à l'époque de l'Empire romain, il y a eu une grande grève générale. Enfin, c'était les gens les plus pauvres et tout ça. Ils s'étaient réunis sur une montagne et ils ont dit « Nous, on bouge pas tant que ça bouge pas ». Ils avaient dit, nous on veut deux tribuns de la plèbe. Les tribuns de la plèbe, c'est deux personnes qui sont élues par les plus pauvres et qui sont deux personnes qui peuvent, si on vote une loi par exemple qui est approuvée tout ça, les tribuns de la plèbe, s'ils voient que ça peut pas marcher, ils peuvent mettre leur droit de veto autant qu'ils veulent et disent non, eux ça leur va pas. Par exemple, s'il y avait deux tribuns de la plèbe qui disent non à la retraite à 64 ans, c'est... Je sais plus qui disait ça, un philosophe. Ou... Connaître le passé, c'est pouvoir comprendre le monde qui nous entoure et comprendre le futur.
Et du coup, on attend pour aller à la manifestation là à Paris. Avec le député, du coup. Première manif. Ah si, j'ai fait une manif. C'est avec mes cousins quand on voulait pas manger des carottes chez ma grand-mère.
J'ai pas envie de partir à 64 ans. De toute façon, d'ici là, je pense que je ferai tout pour éviter ça. Après, à l'Assemblée nationale, j'y ai cru un moment à un vote. Je pensais qu'ils n'avaient pas utilisé 49.3. Mais finalement, surtout que le pire, c'est que j'étais en cours d'histoire. Il y a la prof d'histoire qui vient me voir et qui me dit « Ils ont utilisé 49.3, la loi et Annie. » Là, j'ai dit « Non, c'est pas possible. » Je pensais qu'ils allaient quand même laisser le vote à l'Assemblée nationale. Si tous les grévistes font la révolution, et qu'est-ce qu'ils pourront faire? Enfin, à part abdiquer, enfin abdiquer c'est un grand mot, à part démissionner, Je vois pas ce qu'ils pourront faire contre une révolution. Parce que les CRS, ils sont sympas, mais avec tous les... Si tout le monde fait la révolution, c'est mort. Après, ils ont un devoir de réserve, les CRS. Mais est-ce qu'ils ont envie de partir à 64 ans? Et après, chacun son choix de carrière. Hein. Mais moi, je partirai pas à 64 ans. Ça, c'est clair.
Non, en vrai, l'ambiance de la manif...
Ce qui m'a marqué dans cette journée, c'est que quand on est parti à la manif, j'ai vu par exemple les banderoles des gens, alors vraiment ils sont venus et tout ça. Et que 20 minutes après, j'étais dans un truc où il y a des mecs qui disent « Cette retraite est fondamentale, les Français sont favorables à la retraite. » Et c'est vraiment l'inverse de ce que les gens pensent à l'extérieur. C'est comme s'ils se voilaient la face, ils se voilent la face complètement. Quand je vois ça et que 4 heures après on dit les Français sont favorables à la retraite, ouais, ça pose un vrai fossé et un vrai problème dans la société. C'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de mépris pour la politique. C'est à cause de beaucoup de certains députés et du gouvernement, même si on a vu qu'un aperçu. Je pense que c'était important de voir un petit peu comment un député il fait quand il est en province et aussi quand il est à Paris, quoi. Et donc, il sera encore en réunion quand je serai sur mon canapé à regarder le match PSG Bayern. J'ai retenu le brouhaha des députés dans l'hémicycle. Et encore, il nous a dit juste après, député, que c'était beaucoup moins bruyant que d'habitude. Et ouais, vraiment, ils se gueulent dessus, c'est le mot. Hein. Par exemple, quand la présidente dit la parole est à, je sais plus, au ministre de l'économie, je crois, Bruno Le Maire. Elle a dit la parole est à Bruno Le Maire, ministre des Finances, je crois. Et là, il y a un député, je sais pas c'est qui dit, et de la grève ou de la dette, je sais plus. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, bah, le parti d'en face, il crie à nouveau. Quand les ministres parlent, et bah, il y en a qui applaudissent. Enfin, vraiment, c'est un brouhaha pas possible. Moi, si un jour je suis député, je vais encore plus gueuler que ça, je pense. Donc, ça dépend des débats. Si un jour je suis député, je pense que vraiment, je crierai comme il crie. On aurait dit vraiment une cour de récré. Je crois que la cour de récré de mon collège, c'est moins bruyant que l'Assemblée nationale. Et c'est vraiment des grands enfants, au final, hein, qui se gueulent dessus à longueur de journée, comme ça.
Exactement 8h11, mais on va aider ma mère, donc elle travaille dans les mariages.
Je suis traiteur dans l'événementiel, je suis également décoratrice.
Oh. Ça doit être ça. Nous sommes en retard, c'est un mariage...
Oriental, algérien.
Algérien, bon, voyez-vous. Ça veut dire, cette phrase veut dire, on va terminer à 6h. Et donc bah, là on est devant le box, l'entrepôt. Et du coup, on se rejoint tout à l'heure.
Et le fait justement que de ne pas voir mes enfants assez, etc. Donc j'ai décidé de me lancer dans cette activité. Et l'avantage effectivement, c'est de travailler le week-end, mais je suis avec mes enfants la semaine. Donc de temps en temps, je les emmène pour qu'ils puissent voir. Alors je ne souhaite pas qu'ils me suivent sur ce métier parce que c'est un métier qui est très fatigant et très prenant. Mais il faut qu'ils voient ce que j'essaie de faire pour eux en tout cas. Mais c'est vrai que c'est deux enfants totalement différents. Yannis est beaucoup plus facile à la discussion. Il est passionné d'histoire et de politique, mais il est comme ça sur pratiquement tous les sujets. Donc il veut vraiment tout savoir sur tout. Je sais qu'il va pouvoir donner une autre image justement à la politique. C'est un milieu dur, mais on peut l'attendrir. Je sais qu'Yannis peut y arriver et apporter des valeurs et apporter des petites choses, même s'il ne va pas jusqu'au bout. Il est capable de le faire. Yannis président. Yannis président. Je le vois pas autrement. J'y crois vraiment. Je lui dis aujourd'hui, fais tout pour y arriver. Et comme ça, tu n'auras pas de regrets. S'il n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais on y croit tous dur comme fer.
Donc là, il est exactement... Il est quelle heure, Ayman? Il est 1h56 du matin. Et on vient de finir, sachant que le mariage n'est pas fini. Mais on rentre à la maison. Et on va faire une bonne grasse matinée demain matin. Ah ouais, Ayman. En plus, ils étaient bouillants aujourd'hui. Ils ont fait que danser. De A à Z. Et donc là, on rentre à la maison. C'est parti.
هي هي ولبش جماعة إسلامي الدم هدور والسعي مشكور طبعا تعيش محقور ولا تموت طاعوا سمعا أهلا أهلا البقاع اللي نساوهم احنا المساخيط احنا المواويل احنا المعتية احنا الكراميل احنا اللي بعنا العمر وشرينا الليل شرينا الليل شرينا الليل شرينا الليل كرفنا الشمش الأول متفائل وشعل نبي.
C'était moi, président Yannis, 13 ans, épisode 3, un reportage de Brice Gravel réalisé par Clémence Gross et mixé par Jason Taous et Dofar Guéride. Merci à Yannis, à sa mère Saïda, au député Paul Vanier, à ses assistantes Clémence Foucault et Anis Marzougui, ainsi qu'au prof du collège Jean-Jacques Rousseau d'Argenteuil. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Rita Ruggirello, notre stagiaire.
زهرك البحر الزرق وخا ماشي لولو وانتي وانا كيشي لوب انا الموري جيعان والناس جيعانة بدل انا بنتا هيا هيا كي الدار بيضا كي العطاوي كلش مجرور والفاعل مرفوع قطعا تموت محقور ولا تعيش طاعة وسمعا نهلا نهلا نبقى اللي نساوهم احنا المساخيط احنا المواويل احنا المعتية احنا الكراميل احنا اللي بعنا العمر وشرينا الليل.